Vous écoutez RTL.
RTL.
L'idée, c'est à cause de Orson Welles. En 1973, il avait fait F comme fake, c'est-à-dire vérités et mensonges. Et dedans, il y avait deux faussaires, un en peinture, un en littérature. Et puis une troisième partie qui était plus vraie.
La curiosité est un vilain défaut.
On sortait du film en se demandant qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux dans tout ça. Et au fond, est-ce que ce qui est faux ne peut pas avoir autant de valeur que ce qui est vrai? Parce que ce qui est vrai, c'est un peu faux. Donc ça m'avait mis dans un état très bizarre et je rêvais de rencontrer un faussaire.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Un vrai faussaire, c'est l'histoire que l'on vous dévoile maintenant sur RTL. C'est aussi le titre de votre documentaire. Jean-Luc Léon, bonsoir.
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 Bienvenue, vous racontez l'histoire de Guy Ribes dans un doc qui sort mercredi prochain au cinéma. Alors, pour comprendre qui est ce faussaire de génie, je vous propose de démarrer par une anecdote. Il avait trouvé un stratagème pour faire authentifier de faux Chagall. Comment il faisait?
Je crois qu'il connaissait un rabbin qui était très ami de la fille de Chagall, qui s'appelait Ida Chagall. Et plusieurs fois par an, le rabbin allait voir Ida Chagall et disait « Ce tableau est dans la communauté ». Et Madame Chagall, qui était très impressionnée par son rabbin, disait « Oui, mais j'ai vu mon père le faire, oui, absolument ». Et alors Guy Ribes...
Elle authentifiait, quoi, d'une certaine façon.
Ah ben, elle avait le droit, elle est l'héritière. Et... Bon, depuis, il y a eu un comité Chagall qui a essayé de redresser les erreurs, mais elle le disait de bonne foi, elle n'était pas corrompue du tout.
Jean-Luc Léon va prendre le temps, bien sûr, de raconter l'histoire de Guy Ribes, ce faussaire de génie. C'est un peintre prolifique, il crée énormément.
Énormément, oui. Et c'est comme ça qu'il a appris. Il n'a pas arrêté de faire, de déchirer, de refaire. Et c'est comme ça qu'il a appris, parce qu'il n'a pas fait d'école. Donc toutes les techniques de chaque peintre, il a fallu qu'il les apprenne tout seul. Alors heureusement, il a une mémoire formidable, c'est une éponge. Mais quand même, ça a été dur. Hein. Je crois qu'avant de faire certains tableaux... Il en a raté beaucoup.
Alors, une longue carrière? Une carrière de combien d'années et combien de faux recensés?
Alors, recensés, impossible.
Impossible.
Estimé par lui, 10 000. Ses admirateurs pensent que souvent, il multiplie par 2 ou 3. Donc, vous faites la division, vous arrivez peut-être au réel. Mais on ne saura jamais. On ne saura jamais parce qu'il ne veut pas trahir les gens à qui il a vendu.
Du rêve.
Oui, ou du vent. On va comprendre quelle technique il utilisait. Pour ça, on écoute un premier extrait de votre documentaire, Jean-Luc Léon. Ce sont deux personnes qui parlent, un commissaire de police et un procureur.
Vous en avez saisi beaucoup?
Ah oui, on a saisi quelques centaines, oui, entre 200 et 300. Mais ce qu'on a saisi, c'est le dessus de l'iceberg. Il en a fait des milliers, ce type-là. A inondé le marché de l'art depuis à peu près une trentaine d'années. Donc, vous imaginez un petit peu.
Monsieur Ribes faisait des copies.
Mais non, il ne faisait pas des copies. C'est un faussaire, mais il ne copiait pas la Joconde. Il n'a pas recopié un tableau qui existait déjà. Il faisait des pastiches à la manière de divers peintres dont il imitait la manière et surtout la signature.
Alors ça, c'est très important, Jean-Luc Léon. La technique de Guy Ribes, c'est quoi? C'est de réinventer une œuvre d'un peintre célèbre, c'est ça?
C'est un peu comme un interprète en musique. Il a une partition, il fait des variantes dessus. Souvent, vous savez, il y a des réorchestrations.
Oui.
C'est exactement ça. Et Picasso ou d'autres faisaient des études préparatoires. Il faisait une vingtaine de dessins. Lui, il se glisse entre le 17e et le 18e. Et il en fait un tout petit peu différent. C'est-à-dire, ce n'est pas une copie, c'est une interprétation.
C'est génial pour ne pas se faire attraper.
C'est extrêmement malin.
L'enfance de Guy Ribes, elle est déjà extraordinaire en soi?
Oui, elle n'est pas très drôle au départ.
Ouais.
Hein. Elle est très cinéma. Il est né dans une maison de passe que tenaient son père et sa mère. Alors, la famille, c'était des jeunes femmes qui se prostituaient et qui s'occupaient de lui quand les parents n'étaient pas là. Il dit qu'il y avait une bonne ambiance familiale, mais je crois que ça a marqué son rapport aux femmes d'une façon éternelle.
Il surnomme ses parents d'une certaine manière ?
C'est son père qui le surnommait vice de biais parce qu'il avait un léger strabisme.
C'est sympa,
et
ça.
Il dit que son père était un monstre et son père lui donnait d'autres qualificatifs que je ne vais pas dire parce qu'il y a peut-être des enfants qui nous écoutent.
Ouais.
Mais enfin, c'est, entre lui et son père, c'était la haine totale.
Sa mère était gitane, c'est ça?
Oui, elle était espagnole toute petite et Je crois qu'elle l'a couvé jusqu'à la fin. C'est le seul délice qu'il a connu dans sa, pour les, d'une femme, c'est sa mère.
Ouais. Alors, on est juste après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a eu la loi Martrichard qui a interdit les maisons closes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ses parents sont dans l'illégalité. Ils vont finir par se faire pincer, c'est ça ?
Ça veut dire qu'ils n'ont pas fermé assez tôt. Et donc, on les a emprisonnés. Donc, les enfants, je crois qu'il y avait 3 enfants, ils ont été envoyés dans 3 directions différentes. Et Rib a été envoyé, je crois, chez des jésuites.
Oui. Et c'est là qu'il découvre la peinture ?
Un petit peu, oui. Mais en même temps, il a découvert les classes sociales et ça ne l'a pas trop amusé. Parce qu'il venait d'un milieu lourdement défavorisé et il avait en face de lui des petits bourgeois. Et quand il parle de l'école, des jésuites, c'était dur. Il avait des punitions où il fallait rester les genoux sur une règle pendant des heures. Mais le père jésuite le laissait faire des ronds et des carrés.
Donc là, le tout début, on va dire, du dessin. Mais il apprend vraiment à dessiner dans un atelier de soierie à Lyon, c'est ça ?
Exactement.
Il y vit quasiment dans cet atelier.
Alors à 15 ans, sa mère voit une petite annonce et dit « on cherche apprenti pour un atelier dans les soieries ». Et alors là, pour lui, ça a été le début du bonheur. Non seulement il était loin de son père, mais en plus, il y avait tous les pigments, toutes les matières, et non seulement, il y dormait, et puis il faisait des petits dessins pour lui qu'il allait vendre sur les marchés, parce que sa mère vendait sur les marchés. Elle s'était recyclée, et à la fois, il peignait librement. Bon, il s'est fait pincer par le patron, mais le patron l'a laissé faire.
Vous écoutez RTL.
Bah, il a été jugé et il a pris 3 ans de prison.
RTL.
C'est un Matisse. Manet. Ils sont tous faux.
Il faut qu'il y ait l'âme. Hein. C'est ce qui est le plus difficile à faire. C'est pas le motif qui est difficile à faire. C'est l'âme.
La curiosité est un vilain défaut.
Oui, on a saisi quelques centaines, oui, entre 200 et 300. Mais ce qu'on a saisi, c'est le dessus de l'iceberg. Il en a fait des milliers, ce type-là. A inondé le marché de l'art depuis à peu près une trentaine d'années. Donc, vous imaginez un petit peu.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, Guy Rib ? Il est où ?
Il est tout près de Paris. Il peint. Il peint et il continue à peindre. Il adore ça.
Mais il vend sous son nom ?
Il vend sous son nom.
Et enfin ?
Oui, oui. Et il prépare, il me dit, un livre. Il a fait une cinquantaine de petits dessins format livre de poche qui sont encadrés 8 par 8 sur un fond blanc. C'est des dessins sur le cirque. C'est assez étonnant et j'ai jamais vu qui que ce soit. Il a imité personne.
Ah donc c'est son style à lui.
Oui.
Enfin,
oui.
Il s'est trouvé.
Voilà. Ouais.
Il avait déjà écrit un livre, un autoportrait d'un faussaire publié aux presses de la cité. Guy Rib, c'est une histoire totalement extraordinaire. Hein. Ce mot est souvent galvaudé, mais avec lui, on peut l'employer. On a raconté tout à l'heure qu'il est né quand même dans une maison close, qu'il a été séparé de ses parents qui se sont retrouvés en prison. Il a appris le dessin dans des soieries. Il était en contact avec des voyous, donc petite délinquance, il fait un peu de prison et il a été rattrapé par la prison très très longtemps après. En 2010, il est condamné à 3 ans de prison, dont un ferme. Il a dû porter un bracelet électronique ensuite. Est-ce qu'il le porte toujours aujourd'hui ?
Non, il l'a eu pendant 6 mois et je crois que ça lui a suffi parce que ça l'a pas rendu aimable. En fait, il disait c'est rien, ça n'a aucune importance. Mais je crois qu'avoir cet objet à la jambe, ça l'amusait pas du tout.
Et il dit qu'il peut plus se faire attraper. Pourquoi dit-il ça, Guy Rib ?
C'est un secret ?
Non, pas du tout.
Parce qu'il est plus fort qu'avant ? Non.
Pas du tout. Je ne suis pas sûr qu'il ait totalement raison quand il dit ça. Il part du principe que le procès a été en 2010. L'instruction avait duré 5 ans. Je crois qu'il avait été arrêté en 2003. Quand le juge d'instruction lui a montré les centaines d'œuvres, il en a reconnu une grande majorité. Mais Rib, il a porté au juge d'instruction d'autres détails, des catalogues de maisons de vente, par exemple. Il lui disait, vous savez, ça aussi, c'est faux, ça aussi, c'est faux, ça aussi, c'est faux. Et le juge d'instruction, comme ça ne faisait partie d'aucune plainte, n'en a jamais tenu compte. Et Rib était très déçu. Il disait, je ne comprends pas, moi, je coopère, je leur montre tout. Ces œuvres-là, si on les retrouve demain, elles datent d'avant sa condamnation.
Donc il a déjà été jugé pour ça. Alors, d'accord.
Il veut jouer là-dessus.
Ouais, on ne peut pas être jugé deux fois pour le même fait.
Théoriquement, mais ouais. Pour des faits nouveaux, on pourrait.
D'accord, donc il est peut-être un peu optimiste quand il dit ça.
Exactement.
On a bien compris.
On reprend le fil de son existence qui est quand même rocambolesque et parfois romanesque aussi. Quand il sort la première fois de prison, il a quel âge, Guy Ribes, ce faussaire de génie ?
En fait, c'était vers les 17 ans, mais il avait une carte d'identité qui ne donnait pas son véritable âge. C'est-à-dire qu'il s'était vieilli volontairement, pour je ne sais plus quelle raison. Soit c'était pour devancer l'appel, ce qui lui permettait d'entrer dans la marine.
Oui, c'est à cette époque qu'il rentre dans la marine, c'est
voilà,
ça
alors,
ouais.
Comme il était déjà dans l'univers des faux papiers, ça, il a triché sur son âge. Et puis, il avait été arrêté parce qu'il transportait des faux dollars pour un ami. Il faisait le convoyeur.
Et puis après, il va entrer dans la vraie marine quand même.
Il paraît, oui. Et après, il en a été sorti, peut-être, enfin lui dit que parce que son père, pendant une permission, il rentre chez lui au bout de 8 mois de marine, et son père venait de tuer 2 personnes, les voisins. Alors, nous a raconté que les gens de la marine lui avaient conseillé d'aller s'inscrire à la Légion, s'il voulait continuer, mais qu'il était mal vu dans la marine. Je ne peux pas vous garantir l'authenticité de tout ça. Je ne suis pas allé dans les dossiers.
Oui,
de la
c'est,
marine,
lui, qui,
de la
c'est lui qui le raconte comme ça.
Voilà. En tout cas, il a fait un temps de légionnaire.
Oui. En tout cas, chez les Ribes, on est aussi escroc de mère en fils. Pour preuve, cette archive FR3 qui date de 1975. La mère de Guy Ribes est interviewée pour ses supposés dons de voyance.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous annonce pour 1976, cette boule ?
Elle annonce pas des vilaines choses quand même, mais enfin, pas très bonnes. Je vois des catastrophes. Mais enfin, des catastrophes, il y en a toutes les années, mais enfin, j'en vois plus ou moins bien.
Quel genre de catastrophes ?
Je vois des catastrophes de chemin de fer, je vois des catastrophes d'avions, mais enfin, ça, j'en vois surtout un. Je vois du chômage, alors du chômage, il y en a.
Sur le plan économique ?
Sur le plan économique, vous voyez, et idéologiste, je vois des choses qui vont se passer. Ça pourrait mener presque à une guerre mondiale.
Elle est triste, votre boule ?
Bon, on a échappé à la guerre mondiale en 1976, heureusement. Bon, ça, c'est un extrait de votre documentaire. Jean-Luc Léon, on va revenir au destin de Guy Ribes. Est-ce qu'il a tenté, à un moment de sa jeune vie, on est à cette époque où il est encore jeune, de vivre de sa peinture ?
Au départ, il peignait très peu. Hein. Il a fait des décors de théâtre. Ouais. Et puis, je crois qu'il a vécu un temps en Grèce et revenu en France. Quelqu'un lui a dit j'aime beaucoup Vesbush. C'est un peintre que je ne connaissais pas du tout.
Oui, Vesbush, ouais, d'accord.
Et alors Ribes, gentiment, lui a fait un Vesbush.
Et donc il a découvert qu'il avait ce don.
Ouais, et puis il en a fait 2, 3, 4.
C'était quoi ? C'était un défi, un jeu ?
Bon, c'est pour faire plaisir à un ami, comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'il nous l'a raconté.
Ouais.
Et puis un jour, il connaissait Vesbush qui lui a dit tu pourrais arrêter là, tu pourrais. Alors il dit je suis passé à un autre peintre. Et puis de fil en aiguille, après, il s'est aperçu qu'il y avait peut-être un marché.
Et c'est un marchand de tableaux qu'il va rencontrer, qui va le mettre sur la voie de la vente de ses œuvres, de ses faux.
Oui, il y a eu plusieurs marchands, mais il y en a un qui l'a financé d'une certaine manière, puisqu'il lui a acheté des toiles pendant un an. Et un jour, il a convoqué Ribes et le client. Le client était un éditeur américain qui était aussi le marchand de Chagall. Chagall était vendu à un moment donné par la galerie Mag, mais il était vendu aussi par un Américain qui s'appelait Léon Amiel.
Ouais.
Un jour, ce marchand convoque Ribes, Léon Amiel, et Ribes voit toutes ses toiles étalées dans la même pièce, tout ce qu'il avait fourni depuis un an.
Ça veut dire qu'il peignait des Chagall depuis un an, c'est
ouais.
Ça ? D'accord.
Et l'autre, le Amiel, lui dit « C'est toi qui as fait tout ça ?» Déchire-les. Ribes avait la trouille, il a tout déchiré. Et il lui dit « Viens voir, maintenant je vais te montrer comment on fait du Chagall. » Tu vois, sur le côté rouge, le côté gauche de la joue, ça c'est un peu de rouge. Sur le côté droit, c'est du vert. Et il lui a sorti 30 livres sur Chagall. « Allez, maintenant, va travailler, refais-moi des vrais Chagall. »
Donc le marchand de tableaux l'a incité à continuer, mais à bien faire des Chagall, c'est ça ?
Oui, et puis alors lui, il était bien placé pour les vendre, il était le marchand officiel. Il n'y a rien de mieux. Donc après, comme dit Ribes, ça a marché pendant des années la combine.
Mais donc il travaille toujours sur commande en fait, Guy Ribes ? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un acheteur, un client qui lui commande, je ne sais pas, un Chagall, un Picasso, etc.
Il a une grande préférence pour la commande, avec tu me payes la moitié avant, la moitié après.
D'accord, ben voilà, ça marche. Hein.
Guérib ne copiait pas les tableaux de maître, il s'en inspirait pour créer de nouvelles toiles. Quelles étaient ses astuces pour tromper les acheteurs? On vous les révèle toutes dans un instant, les curieux.
Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Rebonsoir les curieuses et les curieux, bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec plein d'histoires encore.
Ça tombe bien, il sera assez tard, vous voyez, juste avant 22h pour,
oh, parler des choses un peu...
Des jouets pour adultes, vous voyez ce que...
Non.
Non, pas du tout, vous connaissez, vous les utilisez jamais. En tout cas, ça permet de pimenter les jeux en couple. J'adore comment on dit tout ça. Et ils sont tendance, ils sont design, là, de toutes les formes, de toutes les sortes. On va ouvrir le catalogue des sex toys.
Ah, ça y est, j'ai compris. Mais tout de suite, on retourne dans la galerie particulière de Guérib, le plus grand faussaire en peinture.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
C'est l'histoire d'un faussaire que l'on vous raconte, un faussaire qui a trompé le marché de l'art pendant des décennies avant de tomber, condamné en 2010 à 3 ans de prison, dont une année ferme. On découvre ce destin hors norme grâce à Jean-Luc Léon. Sur l'affiche du film, Jean-Luc Léon, on peut lire « Un talent reconnu jusqu'au tribunal ». Pourquoi dites-vous ça?
Parce que le procureur m'a dit « Moi, il y a un petit tableau, là, je l'aurais bien mis dans mon bureau. » Et les avocats, ils regardaient les tableaux qui étaient exposés juste en dessous des magistrats. Et pendant les pauses, ils regardaient celui-là. Il me plaît, le tribunal était un peu transformé en galerie d'art. Et personne disait c'est de la merde. Au contraire. C'est...
Ouais. Et il y a de l'admiration pour ces personnes.
Il y a une chose qui est tout petit peu triste, c'est que tout ça croupit au fond des scellés du tribunal de Créteil et est destiné à être détruit. Alors qu'en Angleterre, par exemple, il y a 2 ans, dans un énorme musée à Londres, on a fait une exposition du faux. Et les gens étaient morts de rire. Et
c'est le faux, c'est une longue histoire dans l'histoire de l'art.
Ah ben le faux, chez les Romains, on faisait des faux grecs, parce que c'était chic d'avoir une statue grecque à la maison.
Ouais.
Au Moyen-Âge, on trafiquait les reliques comme des bêtes, parce que dès qu'elles étaient un objet de culte, eh ben, une relique, on n'allait surtout pas dire qu'elle était fausse.
Ouais.
Michel-Ange était un des faussaires formidables.
Quoi? Il a fait...
Oui, Michel-Ange.
Attendez, on ne touche pas à Michel-Ange.
moi, j'y touche pas.
Michel-Ange était un faussaire.
Bien sûr, mais c'était admirable en même temps. Sauf le jour où il a un peu truandé un cardinal. Mais sinon.
Mais qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il vendait? Qu'est-ce qu'il
Il avait 18 ans, il était surdoué, il était abrité par la famille Lorenzo de Médicis.
Ouais.
Il était un enfant surdoué à 15 ans. Alors, il empruntait des beaux dessins et puis souvent, il rendait les siens. Il gardait les originaux pour lui.
Ah,
et puis, un jour, il s'est mis à la sculpture. Et son mentor, Médicis, lui a dit « Mais c'est superbe ce que tu fais. Mais tu sais, tu le vieillirais un peu, tu pourrais le vendre à Rome une fortune. » Et c'est ce qu'il a fait. Il l'a vendu à un cardinal qui s'appelle Riario, qui était un neveu du pape. Et il a payé 200 ducats. Et puis, quelques temps après, il a appris. Et il n'a pas aimé la plaisanterie du tout. Donc, il a été obligé de rembourser.
Hmm. Mais... Donc, l'histoire des faussaires, elle épouse l'histoire de l'art depuis toujours. Si je vous comprends bien, on revient à notre Guérib, ce faussaire qui, aujourd'hui, a une 60aine d'années.
67 ans.
Et qui peint, mais maintenant, sous son vrai nom. Il s'est attaqué à plusieurs grands maîtres, on a parlé de Chagall, il y a eu qui d'autre? Il y a eu Picasso,
Matisse, Miro, Fujita,
Dali.
Léger, Dali, alors mais tout le monde s'est attaqué à Dali.
C'était trop facile.
C'est du gâteau ça.
et là où il est quand même assez bluffant, et on peut comprendre la réaction du procureur, des avocats ou même de certains experts éventuellement lors de son procès, c'est que c'était un bosseur, c'est-à-dire qu'il était capable par exemple de faire les différentes époques d'un peintre, c'est ça?
Oui, et alors, enfin, quand je dis c'est du gâteau, enfin, c'est pas très gentil pour lui parce qu'il nous a bien expliqué que chaque peintre, c'est un travail terrible. Il achète toute la documentation qu'il peut et puis il rate et il jette et jusqu'à temps qu'il soit content, il veut pas que ça sorte de chez lui. Alors de temps en temps, il y avait un ami qui en piquait un et qui allait le mettre en vente, mais il a toujours essayé d'avoir une production de haute qualité. Alors sur les différentes époques de Picasso, je dois vous dire que je me rends pas compte. Je l'ai vu faire de mes yeux chez moi un faux Picasso à l'encre. Et c'était période 1912-1913, c'était bluffant. Surtout que quand on filme, c'est un peu occupé par la mise au point qui est délicate. Il faut pas qu'il y ait de... on enregistre le son, il faut que ça soit. Donc j'étais tout seul avec lui, il faut pas le troubler. Il en a fait deux autres, de Léger et Miro. À 9h30 du matin, il était venu avec sa petite valise. Et à midi, je vois les trois tableaux sur la cheminée. Et là, j'ai compris que j'avais un monstre. Enfin, de 9h30 à 13h, il avait imité avec un talent fou Picasso, 1913, Léger, Miro. Mais c'est un monstre, cet homme.
Du talent et des astuces aussi pour être un bon faussaire. Guirib a une technique pour vieillir ses toiles, par exemple. On l'écoute raconter comment.
Moi, je laisse pile la couleur qu'il faut et je recommence. Je fais 10 couches et je lave, j'enlève, je remets, jusqu'à ce que ça soit en dessous de la surface. Ça fait que, si tu veux, je rattrape le temps. Je remplace le temps. Ah, mais soit prends un papier, mais plaque un rouge à la gouache. Tu laisses bien sécher, après tu vas dans ta baignoire. Prends une éponge, tu laves. Il restera toujours une trace qui est rentrée dans le papier.
C'est ça, c'est une façon de faire rentrer dans le papier.
Voilà. Parce que si tu ne fais pas une technique comme ça, tu vas faire ta gouache. Un mec comme Perrault, il te passe ça au micro, machin, truc, il va voir tout de suite qu'il y a une surface au-dessus du papier. Il va faire une analyse de la coupe de la gouache qui est en surface et il va te la dater à la seconde près.
Là, on voit le personnage, là, d'un seul coup, qui nous parle. Perrault, il parle de Gilles Perrault, qui est un expert reconnu du monde de l'art. Et il avait même aussi une technique. Alors là, on rentre vraiment dans la cuisine de Guirib, de ce faussaire talentueux. C'est-à-dire qu'il achetait des tableaux de l'époque dont il voulait s'inspirer, c'est ça ?
Des vieux tableaux sans aucune valeur.
Oui.
Si, de préférence encadrés. À ce moment-là, il enlève les clous à l'arrière. Il glisse son dessin à la place du dessin ancien, il referme, il met à plat, il tapote sur le verre, du verre, toute la poussière descend sur sa peinture à lui, et donc il dit tout de suite, attention, faut pas le vendre demain, on attend quelques mois.
Il faut le faire vieillir encore un peu.
La peinture absorbe la poussière et l'expert, il est cuit. Parce qu'un mélange peinture et poussière de 50 ans, ça devient un objet de 50 ans.
Et les signatures des maîtres ? Ça, c'est quand même difficile à imiter, quand même. J'imagine que ça, c'est traqué par les experts.
Ah, comment il s'est beaucoup exercé. Et Picasso, par exemple, avait une trentaine de signatures différentes. Il a dit que lui, il les prenait de droite à gauche et que c'était le seul moyen d'y arriver.
D'accord, il écrit dans le sens inverse.
Pour les signatures, oui.
Bon, ben voilà, on découvre les stratagèmes de Guirib, ce faussaire. Mais ils ont marché une décennie, deux décennies, trois décennies. Puis il a fini par être rattrapé par la police. Comment ce faussaire de génie est-il tombé ? Il n'est pas encore dans la tombe. faussaire, c'était un peu dur quand même. C'est un faussaire, il est génial. Il a 67 ans, il est toujours vivant. Mais il est tombé, on vous raconte comment.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
C'est un escroc, un faussaire qui a arnaqué des dizaines de riches clients pendant plus de 30 ans. Mais tous ceux qui ont vu ses œuvres sont obligés de reconnaître son grand talent. Certains disent même qu'il est génial. Je vous avais dit, il a peint à peu près 10 000 toiles. Il en a dû en vendre quand même pas mal. Il doit être super riche. Parce que si il s'est mis dans la peau d'autant de grands peintres, Chagall, Picasso et tant d'autres, mais il est millionnaire.
Il a été très très riche, mais il a aussi beaucoup perdu au casino. Et donc, après son arrestation, je l'ai connu dans une période de vache très maigre. Très 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 maigre.
Mais ça veut dire que ces toiles se vendaient comme on vendait une toile de maître, c'est-à-dire entre 1 et 2, 3, 4 millions ?
Non, je ne crois pas qu'on les vendait si cher que ça. Et de toute façon, il en a vendu lui-même assez peu. Il avait des marchands, le marchand lui achetait une somme forfaitaire assez basse.
C'était quoi ? Quelques 10, 15 000 euros ?
Oui, c'est ça.
Dans ces eaux-là, d'accord. Ouais.
Mais ça veut dire que les clients, au bout de la chaîne, je suis curieuse, hein, mais payer l'œuvre, ça tombe bien pour l'émission, hein, payer l'œuvre au prix du marché d'un Chagall et d'un Picasso ? Non, ou ils payaient moins cher déjà ?
Ils payaient nettement moins cher et c'est pour ça que...
Ça met la puce à l'oreille quand même.
Ils auraient dû savoir que l'œuvre n'était peut-être pas tout à fait authentique parce qu'on ne trouve pas des grands maîtres à ce prix-là.
Ben oui, évidemment. Mais pour frimer devant les copains, c'est pas mal d'avoir un Chagall ou un Picasso dans son salon, non ?
Mais il y avait un marchand, par exemple, qui avait mis au point une astuce. Il disait, il y a un fils de famille là qui voudrait ne pas payer des droits sur l'héritage et... Vous voyez, la maison est pleine de tabous. Si vous lui payez en cash, il peut vous le faire au quart de la valeur.
Ah oui, d'accord. Alors,
beaucoup de gens se sont fait avoir comme ça. Ils ont payé en cash et après ne portent pas plainte.
Ben non.
Soit parce qu'ils essayent de refourguer l'œuvre ailleurs, soit parce que l'argent avec lequel ils l'ont acheté a une origine légèrement douteuse.
Et oui, il venait de...
Donc, les marchands et RIB profitent de ça.
D'accord, on a bien compris le système. Le 5 janvier 2005, Guy RIB est arrêté à Saint-Mandé. Comment il est tombé? Est-ce que les enquêteurs étaient sur sa piste depuis longtemps?
Le commandant Martin Pérolin et sa brigade à l'époque étaient sur le coup depuis longtemps, mais ils ont eu aussi une dénonciation qui les a aidés. En fait, il y a eu des plaintes pendant 2-3 ans aux quatre coins de la France. Et un jour, un juge d'instruction a tout réuni. Et puis, Martin Pérolin et son équipe ont pisté, ont suivi. Et il fallait le prendre sur le fait. Parce que sinon, c'est très délicat chez lui. Il est assez intelligent, Guy RIB. Il n'y avait pas de peinture, ni de tube de peinture, ni de pinceau, ni rien. À chaque faux, après, il détruisait tout. Pour chaque commande, il recommande du matériel nouveau. Il est pas bête, hein.
Guy RIB qui donc est arrêté. Et alors là, on s'imagine, on est dans le bureau du juge d'instruction et on lui montre des catalogues de grandes salles des ventes. Qu'est-ce qu'il fait, Guy RIB? Il doit désigner ses tableaux, c'est ça?
Oui, on lui montre à la fois des vrais tableaux qui ont été saisis chez des particuliers. Il y en avait entre 150 et 200. Ouais. Et on lui montre des catalogues et on lui dit, qu'est-ce qui est à vous? Alors, est-ce que dans le tas, il a été tenté d'en reconnaître des très beaux qui ne sont pas de lui? J'ai eu l'impression qu'au moins sur un tableau, c'était le cas. Est-ce que certains ratés ne veulent pas les reconnaître, peut-être? On ne saura jamais. Personne ne saura jamais.
En tout cas, c'est difficile pour un expert de repérer un faux réalisé par Guy RIB. Écoutez ce qu'en dit Gilles Perrault. Il parle d'un faux tableau du peintre Léger exposé à Pompidou.
Vous vous souvenez par exemple de cette œuvre de Léger qui est au centre Pompidou. Elle n'a pas de valeur, mais elle vaudrait au bas mot plus d'un million d'euros, bien évidemment. Peut-être deux, peut-être trois. Et Guy RIB avait pris ces personnages, ce couple, et on avait fait un autre tableau en prenant le bateau qui est là et en rétrécissant tout. Nous l'avions analysé et nous avions découvert qu'il s'agissait d'une peinture vinylique, ce qui était tout à fait impossible à l'époque. Donc de ce fait, c'était un faux.
Le tableau ici est de 1940, ouais. Et les peintures sont apparues en gros 20 ans après.
Jean-Luc Léon, pendant le procès, l'un des experts aura une phrase très élogieuse pour Guy RIB. Alors il dit n'avoir jamais rencontré un faussaire capable d'imiter autant d'artistes différents. Et il conclut, vous vous souvenez de la phrase?
Si Picasso l'avait connu, il l'aurait peut-être engagé.
Donc voilà, donc on a même un expert qui reconnaît le talent de Guy RIB. Est-ce qu'il a quand même aidé la police pendant cette instruction à retrouver un certain nombre de ces faux, de ces toiles?
Je crois qu'il a reconnu tout son travail, mais d'un autre côté et séparément, l'expert, lui, scientifiquement, avait déjà auparavant expliqué à la justice tout ce qui, à son avis scientifique, était totalement faux. Mais quand c'était faux, ça ne voulait pas dire que c'était Guy RIB, parce qu'il y avait d'autres gens qui avaient travaillé à fabriquer des faux tableaux.
Mais des faux peints par Guy RIB, il en reste beaucoup dans la nature ?
J'ai bien peur que oui.
Et les collectionneurs préfèrent ne pas savoir, c'est ça?
Alors, mettez-vous à leur place. Si vous avez acheté un faux, qu'est-ce que vous faites? Il y a soit vous portez plainte...
Je me tais.
Ben voilà, donc c'est pour ça qu'il y a très peu de plaintes.
Et Guy RIB, il a été condamné. Est-ce qu'il est le seul à être tombé dans ce procès?
Non, c'était une bande organisée, d'après la qualification judiciaire. Donc, le marchand et deux complices ont été condamnés en même temps.
Alors Guy RIB, il a vraiment un destin extraordinaire, puisque après ce procès, donc vous nous avez dit, il a 6 mois de bracelet électronique, et puis il recommence à peindre, mais là, pour lui, en signant de son propre nom. Et il travaille même pour le cinéma sur le film Renoir.
Comment tu t'appelles?
André.
Je crois que nous allons travailler tous les deux. Sois naturel, oublie que je suis là. J'ai essayé toute ma vie de peindre comme un enfant.
Il s'est remis à peindre des figures?
Ah oui, n'empêche, j'aime bien sa marque. Le patron l'est toqué.
Tu es bien pudique pour une actrice.
Actrice, c'est pas putain.
Le génie n'est pas héréditaire.
Tu as pensé à moi? Tu m'avais tout promis.
Renoir a besoin de toi.
Toute ma vie, je me suis embarrassé de complications. Aujourd'hui, je simplifie.
Michel Bouquet dans le rôle de Renoir. C'était quoi la mission de Guy Ribe sur ce film ?
Il y avait plusieurs missions. D'abord, dans le décor, il fallait qu'il y ait beaucoup de tableaux, d'esquisses de Renoir. Il y avait un deuxième travail qui était de coacher Michel Bouquet lorsque Bouquet devait apparaître en plan large à l'écran. On ne pouvait pas tricher. Donc il fallait que le geste corresponde à quelque chose. Et parce que sur un grand écran, ça se voit quand Bien on sûr. Fait un truc maladroitement. Donc il essayait de dire à Bouquet, ne t'inquiète pas, suis la goutte. Pars du haut et puis descends. Laisse-toi guider par la vitesse à laquelle la peinture descendra devant toi. Bon. Et puis il y avait dans les gros plans les mains de Ribe qui étaient maquillées pour ressembler à celles de Bouquet. Et alors à ce moment-là, c'est lui qui faisait le peintre.
J'ai vu ce film que j'ai beaucoup aimé. Ce sont les mains de Ribe qu'on voit. Et les tableaux de Renoir qui sont dans le décor ont été peints par, j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, ont été peints par Guy Ribe.
Certains ont été peints par Guy Ribe, certains ont été... On fait l'objet de photocopies couleurs sur lesquelles il travaillait en plus. Parce qu'il n'aurait pas pu en faire 250. Il en fallait beaucoup puisqu'il fallait différents stades d'évolution d'une peinture.
Mmh. Est-ce que l'histoire de Guy Ribe, qui est quand même absolument extraordinaire, peut se reproduire ou bien les moyens mis à disposition maintenant, enfin en tout cas créés par la police scientifique, ruinent toute future carrière de faussaire?
Parce qu'on prépare nos sujets pour dans 10 ans.
Non, parce qu'en fait, avec Thomas, on commence à être un petit peu intéressant. On se dit qu'on pourrait faire un business.
C'est possible encore aujourd'hui, ça?
C'est certainement possible, mais pas obligatoirement sur la peinture à l'huile, parce que c'est très facile de la dater. C'est du gâteau pour Gilles Perrault. Enfin, du gâteau. Il a des instruments horriblement onéreux, précis et rapides pour vous dire, tiens, ça, c'est 1850, ou alors, tiens, c'est 1980, avec en prélevant un tout petit poil du cadre ou d'un tout petit morceau des pigments.
Oui.
Maintenant, si on parle du dessin, c'est très facile de berner les gens parce qu'on peut acheter des papiers qui ont 50 ans, on peut trouver des vieux crayons, on peut trouver des vieilles encres. Et donc, on est en 2016, on peut vous faire une œuvre d'il y a 50 ans très très vite, ça, c'est facile. Maintenant, sur l'art contemporain, il y a certainement du faux à faire.
Ah bah, oui, parce qu'effectivement, il y a quelques...
Mais ça, on va regardez pas ouvrir un débat. Regardez ma bouteille écrasée.
Voilà, ah bah oui, voilà. Très très joli. On va pas ouvrir un débat sur l'art contemporain. Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.